Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et avec Culture Média. En ce week-end de l'Ascension, on ne fait pas le pont, on est sur le pont. Pas de best-of, pas de remplaçant, juste des titulaires. Bruno Donnet pour ses télescopages, Lisa Marie Marquez et son portrait, Marc-Antoine Lebret et ses stories et Louise Bernard pour le journal des médias et les audiences d'hier. On va parler cinéma dans cette émission et musique, notamment autour de la disparition du fondateur de Depeche Mode, Andy Fletcher. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct, faut-il le rappeler. Vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre infomédia va évaluer la colossale pollution due au numérique. Oui, quand nos mails, nos appareils électroniques et nos réseaux sociaux consomment beaucoup trop de carbone. L'informatique représente 10% de CO2 dans le monde, c'est 4 fois plus que l'aviation. Comment cela est-il possible et comment y remédier surtout? Question posée à Julie Martin, auteure du livre « Cliquer, c'est polluer ». Nos invités ensuite, Kelly Rangama, jeune chef étoilée qu'on avait découvert dans Top Chef. Elle a désormais son restaurant à elle, une étoile, et surtout, elle est sur France 3 avec un concept qui fait beaucoup voyager. Enfin, le comédien et metteur en scène Michel Faux, qui se définit lui-même comme un ovni ou comme un punk. On parle de sa pièce qu'il a mise en scène, qu'est-il arrivé à Bette Davis et John Crawford avec Amanda Lear. Et lui-même joue dans cette pièce, il incarne une femme, en l'occurrence Bette Davis, en vieille star sur le retour. Rarement lu un texte aussi méchant, donc drôle. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, j'aime beaucoup votre formule, on fait pas le pont, on est sur le pont.
Vous savez quoi? Je vais rendre à César ce qui est à César, c'est Bruno Donnet qui m'a dit ça hier.
Je sais, je vous forcez à le dire.
Je veux la mettre dans le sommaire, au sommaire de votre journal des médias justement Louise.
Des journalistes français découvrent l'identité d'un auteur présumé de crimes de guerre en Ukraine. Le journal d'extrême droite Rivarol privé d'aide à la presse. Omar Sy signe un contrat avec une plateforme et ce n'est pas Netflix. Et puis Elon Musk va emprunter moins d'argent que prévu pour racheter Twitter.
Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Vous savez, il n'y a plus de surprise le jeudi soir, c'est toujours HPI qui est en tête, ouais. La saison 2. Alors il n'y avait qu'un épisode inédit, donc comme on fait la moyenne des deux épisodes, ça baisse un petit peu le score global. Il y a quand même 6 580 000 téléspectateurs qui étaient devant TF1 hier, 36% de part énorme. D'audience, et près de 8 millions de personnes rien que sur le premier épisode inédit. Deuxième, France 3 avec le téléfilm La Malédiction de Provins, 1 740 000 téléspectateurs, 8,6% de part d'audience. Et puis troisième, France 2 avec le documentaire Règne Animal, Les Jeux de l'Amour, 1 700 000 téléspectateurs, 8,5% de part d'audience. C'est à peu près ce que fait Envoyé Spécial quand c'est programmé d'habitude sur cette case-là.
Europe 1 Culture Média.
On commence ce journal des médias avec l'enquête de la chaîne France Info, enquête diffusée demain. Enquête sur un potentiel crime de guerre.
Oui, ce sera dans l'émission Vrai ou Fake, spécialisée dans le fact-checking. Un module de quelques minutes, mais qui a nécessité plus de 2 mois d'enquête. Les équipes ont travaillé à partir d'une vidéo postée sur les réseaux sociaux pro-russes. On y voit ce qui ressemble à un crime de guerre. Des soldats ukrainiens tués, certains ont le pantalon baissé. Les journalistes ont donc analysé, décrypté chaque indice laissé dans la vidéo. Ils ont donc pu confirmer que les victimes étaient bien des soldats ukrainiens. Ils ont trouvé où la vidéo avait été tournée et surtout par qui. Qui est cette voix qui film et qui commente. Alors pour cela, les équipes de Vrai ou Fake ont utilisé différents outils. Julien Pin, rédacteur en chef et présentateur de Vrai ou Fake.
J'ai vraiment beaucoup travaillé moi sur l'analyse des images amateurs depuis longtemps. Donc les techniques par exemple de géolocalisation, d'analyse d'images, ça je maîtrisais déjà. Ce qu'on a fait, qu'on n'avait jamais fait encore, c'était l'analyse de voix. Alors ça avait été fait déjà, notamment dans l'affaire Cahuzac, je ne sais pas si vous vous en rappelez, où effectivement l'enquête avait eu besoin de vérifier que des enregistrements audio étaient bien la voix de Cahuzac. Bon, là on a fait la même chose pour ce soldat russe, mais ça on ne l'avait jamais fait, on est passé pour être sûr par 2 sociétés différentes qui ont analysé la voix avec des logiciels et qui ont abouti à la même conclusion que donc c'était bien la personne qu'on recherchait.
Oui, les journalistes sont parvenus à identifier l'auteur de la vidéo et donc l'auteur présumé de crimes de guerre. C'est rare d'y arriver, c'est très important pour les procès, pour pouvoir condamner. Alors, quelle suite vont-ils donner à leur enquête? J'ai demandé à Julien Pin s'ils allaient eux-mêmes contacter la justice.
Pour le grand public, on a choisi de flouter l'image de cet homme et de ne pas donner son vrai nom, alors que nous, on les a. On connaît son nom complet et on a son visage sur de multiples vidéos. Je pense que c'est pas à nous, journalistes, ensuite d'aller vraiment faire la démarche, d'aller accuser quelqu'un et de monter un dossier contre quelqu'un. Nous, on fait l'enquête et ensuite la justice fait son travail. Et donc, si la justice nous le demande, que ça soit la Cour pénale internationale, la justice ukrainienne ou la justice française, hein, qui peut enquêter sur ce genre de crime, on donnera l'intégralité de notre enquête, parce que c'est 2 mois de données qu'on a récupérées, vérifiées, et ça, je pense que ça peut aider les enquêteurs.
L'émission Vrai ou Fake est diffusée demain à 12h05 sur la chaîne France Info, canal 27.
On passe du côté de la presse écrite. L'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol n'aura plus le droit aux aides à la presse.
Oui, car il vient de perdre son agrément accordé par la Commission paritaire des publications et agences de presse. C'est cet agrément qui permet en fait de bénéficier d'avantages économiques pour la presse. Rivarol n'aura donc plus le droit aux avantages fiscaux et aux tarifs postaux réduits. La perte de l'agrément supprime également les aides à la presse du ministère de la Culture, mais de toute façon, le journal ne le touchait pas, hein, car il ne les demandait pas. Dans le règlement de la commission, il est écrit que l'agrément ne peut pas être accordé aux publications négationnistes, incitant à la haine raciale, à la xénophobie et celles portant atteinte à la dignité de la personne humaine. Or, le directeur de publication de Rivarol, Jérôme Bourbon, a été condamné une 15aine de fois, notamment pour provocation à la haine, contestation de crimes contre l'humanité et injures racistes. En mars, une 30aine d'historiens, de personnalités, avaient d'ailleurs publié une tribune dans Le Monde pour protester contre ces aides dont bénéficiait Rivarol. Notre pays accorde des facilités à Rivarol, hebdomadaire le plus raciste, le plus antisémite et le plus négationniste qui soit. Fin de citation, voilà ce qu'ils avaient écrit. Et en novembre, le député La République En Marche, Jean-Louis Touraine, avait également interpellé la ministre de la Culture de l'époque, Roselyne Bachelot.
Omar Sy s'associe à la plateforme HBO Max.
Il veut développer des contenus destinés au monde entier, notamment à l'Afrique francophone, à la France et aux États-Unis. HBO Max est une plateforme concurrente de Netflix. Cette annonce est donc un peu étonnante, puisqu'en 2021, en octobre, Omar Sy et Netflix avaient signé un contrat de plusieurs années pour produire des contenus originaux. Et puis Omar Sy est quand même très connu mondialement aussi pour la série Lupin de Netflix. Pour la plateforme HBO Max, c'est donc une bonne prise de guerre, puisqu'elle a pour ambition de se développer à l'international. On ne sait pas encore vraiment quand elle va arriver en France, on parle de 2023, donc ces productions d'Omar Sy, ces futures productions, pourraient être une bonne manière d'attirer le public français vers cette nouvelle plateforme.
Elon Musk va finalement emprunter moins d'argent que prévu pour le rachat de Twitter.
Oui, alors le prix d'achat reste le même, c'est la somme empruntée aux banques qui sera finalement moins importante. Elle devait être de 25 milliards et demi, finalement ce sera seulement 13 milliards de dollars, des chiffres communiqués par l'autorité américaine des marchés. Alors si cet emprunt est moins important, c'est grâce à la somme apportée directement par Elon Musk et ses partenaires, plus élevée que prévu, c'est logique. L'entrepreneur n'a pas précisé, en revanche, si cet argent provenait directement de sa fortune personnelle. Par ailleurs, il continue de chercher d'autres sources de financement pour faire baisser la somme de l'emprunt. Il a annoncé être en discussion avec plusieurs personnes, dont Jack Dorsey, qui est le cofondateur de Twitter et ancien directeur général.
Et on termine ce journal avec une actu télé. France 2 va célébrer la fête de la musique à Montpellier.
20 000 personnes sont attendues sur la place de l'Europe pour ce grand concert. Filmé et diffusé par France 2, ce sera le 21 juin prochain. Montpellier avait déjà accueilli les équipes de France Télé, c'était en 2014. Cette année, ce sera un concert en direct présenté par Garou et Laurie Tillman. Ça devrait durer plus de 3 heures. Sont déjà annoncés Big Flo et Oli, Nolwenn Leroy, Marc Lavoine, Offenbach, Claudio Capeo et Dadju. Et puis, petite particularité pour cette édition, la fête de la musique fête ses 40 ans. Donc France 2 a choisi comme thème 40 ans de tube, avec une scénographie de Kamel Wally, qui était le chorégraphe de la Star Academy,
évidemment,
pour les nostalgiques. Ce sera donc le 21 juin prochain. Et si vous habitez à Montpellier, sachez que le concert est gratuit. Il faut simplement retirer un billet numérique. Ce sera sur une plateforme qui sera bientôt mise en ligne.
Merci beaucoup, Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. On s'inscrit sur europe1.fr. C'est gratuit. À lundi pour un nouveau journal des médias. J'arrive à le dire. Bon week-end.
À lundi, bon week-end.
Dans un instant, sur Europe 1, notre info média du jour. Question, et si on coupait Internet pour sauver la planète? Un livre nous alerte sur la surconsommation en CO2 de nos appareils électroniques divers et surtout de nos pratiques en ligne. Le livre s'appelle « Cliquer, c'est polluer ». Nous sommes avec son autrice, Julie Martin. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Avec l'épidémie de Covid et les confinements successifs, l'engouement pour le télétravail a fait un véritable bond en avant et sa mise en place dans les entreprises s'est réalisée à une vitesse bien plus rapide que prévu. Le but, limiter les contacts avec les collègues. Mais bien avant cela, le télétravail était fortement encouragé, notamment pour ses bénéfices sur l'environnement. On télétravaille à la maison, on ne se déplace donc pas à l'intérieur d'un véhicule 2 fois par jour, 5 fois par semaine, et on émet moins de CO2 de ce fait. Oui, mais voilà, le travail à distance est également synonyme de nouveaux matériels électroniques à acheter, de longues heures au téléphone ou en réunion par webcam, des mails, des fichiers partagés, et tout cela a aussi un coût pour la planète, et c'est le sujet d'un livre à la fois pédagogique et ludique, tout en couleurs. Son titre est « Cliquer, c'est polluer ». Bonjour Julie Martin.
Bonjour.
Vous êtes l'auteure et la conceptrice de ce livre. édité aux éditions 404. 404, c'est comme erreur 404 ?
Je pense que oui, je pense que ça vient de là.
Votre livre nous alerte sur la pollution du numérique. Et pour que tout le monde comprenne, vous avancez un chiffre effrayant qui concerne le streaming. Il concerne cette chanson, j'y arrive. Tout le monde a reconnu la chanson Baby Shark postée par la chaîne coréenne Ping Fong et qui est devenue la vidéo la plus vue sur YouTube, regardée plus de 10 milliards de fois. Pourquoi vous la citez ?
On la cite parce que son empreinte carbone, donc comme c'est la vidéo la plus vue sur YouTube, c'est aussi celle qui a consommé le plus d'énergie en étant vue par les gens. Et du coup, elle a consommé autant que 2200 appartements chauffés au gaz pendant plus d'un an.
Des appartements de 50 mètres carrés, voilà. 7 chansons sur YouTube, c'est la consommation en gaz d'un an de 2200 appartements de 50 mètres carrés. Alors on va entrer dans les détails, mais depuis quand se soucie-t-on de la pollution numérique ?
On va dire que dans les sphères vraiment concernées, dans les acteurs du milieu, ça, c'est un sujet dont on parle quand même depuis, on va dire, 2-3 ans. Il y a eu, suite au premier rapport du GIEC, il me semble, un rapport du Shift Project, qui était un think tank basé justement sur la réflexion autour de l'impact du numérique qui est sorti. Aujourd'hui, le gros du sujet, en fait, c'est d'arriver à en parler au grand public et aux particuliers, c'est l'objet du livre d'ailleurs, en parler aux ados, aux jeunes adultes, qui sont les plus gros consommateurs du numérique. Et qui se rendent pas forcément compte des impacts que ça peut avoir.
Et qui sont souvent les mêmes à s'indigner, à glapir sur les réseaux sociaux en disant « Tu te rends compte, tel ministre a pris un avion alors qu'il aurait pu prendre le train ?» Et je le rappelle, le numérique émet 4 fois plus de CO2 à l'échelle de la planète que tout le transport aérien.
Que le transport aérien.
Il faut bien le préciser. Vous avez les chiffres en tête ?
Alors, il me semble que donc, l'aviation civile, c'est 2,5% des émissions de CO2 mondiales. Mmh. Le numérique, c'est pas loin de 5,5%.
Ouais, voilà.
Donc, c'est énorme. C'est un petit peu moins que les voitures aujourd'hui, mais sachant que ça continue de progresser, le numérique, c'est pas loin de dépasser l'émission carbone des voitures.
Il y a plusieurs chiffres différents, parce que moi, j'avais 10% pour le numérique et 10% également pour le textile. Oui. Et la fast fashion, il faut le dire, c'est polluant à l'extrême et on s'en rend très peu compte. Pendant sa campagne, Emmanuel Macron avait fait une promesse. Ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Le nouveau gouvernement a été nommé il y a une semaine. La première ministre, Elisabeth Borne, est elle-même chargée de gérer la planification écologique. À ses côtés, deux ministres, Amélie de Montchalin, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition énergétique. Et cette dernière, Agnès Pannier-Runacher, était l'invitée cette semaine de BFM TV, c'est Amandine Atalaya avec qui elle parle de pollution numérique.
Moi, je suis du côté de l'écologie des solutions, pas de l'écologie des illusions. Et donc, effectivement,
c'est ça. Donc avant, à vos
nous
yeux,
sommes aujourd'hui dans un travail de fond qui est compliqué, qui suppose de la concertation, parce qu'il n'y a pas des solutions toutes trouvées, qui suppose de la transparence, qui suppose également d'associer les Français. Je crois que c'est très important et tous Français aujourd'hui, on a envie de faire ces gestes qui permettent de sauver la planète. Et parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. On va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie. Et puis, on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Et on aura consommé beaucoup plus d'énergie.
À quoi fait référence la ministre ? Comment une pièce jointe peut-elle émettre du CO2 ?
Alors en fait, il faut savoir que l'une des choses qui consomme et qui émet du coup du CO2 sur Internet, c'est les données qui circulent dessus. Un email, à la base, s'il y a juste du texte, c'est pas super lourd. À partir du moment où on rajoute une pièce jointe, on rajoute des données, donc on rajoute du poids. Et donc on va rajouter des choses à traiter, parce que quand on envoie un email, du coup, il est traité par notre messagerie de départ. Il est envoyé en petits paquets de données dans tout le réseau Internet qui circule au fond des océans, dans des grands câbles, et qui parcourt en moyenne 15 000 km, il faut le savoir, avant d'arriver dans la boîte de réception du destinataire. Et il est d'ailleurs, à ce moment-là, réanalysé par la messagerie d'arrivée du destinataire. Il est également sauvegardé dans les data centers du service de messagerie qu'on a utilisé. Donc en fait, tout ça fait que cet email, il consomme de l'énergie, il consomme de l'électricité, donc par conséquent, il émet aussi du CO2. Plus il est lourd, plus il en consomme. Quand on met une pièce jointe, ça en consomme donc plus. Et évidemment, je crois que c'est 4 grammes à peu près l'empreinte carbone d'un email tout simple, juste en texte. Ça se multiplie par 10, voire plus, quand on ajoute une pièce jointe. Et il y a à peu près 300 milliards de mails qui sont envoyés par jour dans le monde.
Donc en fait, c'est aussi ces petits grammes par petits grammes, quand on le multiplie par le nombre d'utilisateurs et le nombre d'occurrences par jour, ça devient vraiment vertigineux.
Donc ça veut dire qu'il faut au moins envoyer de mails et aussi les effacer et faire de la place dans sa boîte si on est sur le cloud. Parce que si on est sur son ordinateur, moi j'ai mes mails dans mon ordi, je ne suis pas sur le cloud, ça dépense rien, on éteint l'ordi, il s'éteint.
Tout dépend, à partir du moment où la mémoire va être un peu saturée, il va forcément se mettre à consommer un petit peu plus en batterie. Mais effectivement, c'est le fait de le sauvegarder, de le garder sauvegardé sur le cloud, c'est là où effectivement ça consomme beaucoup plus.
Alors la déclaration de la ministre a enchaîné beaucoup de réactions sur Twitter, de réactions négatives, je vais en citer quelques-unes. L'écologie, selon Pannier-Runacher, c'est de ne pas envoyer des mails, mais sûrement pas de remettre en cause le dogme mortifère de la croissance et le productivisme, ou encore celle-ci, ce n'est pas le citoyen lambda qui pollue le plus, Total, on en parle. Est-ce que ça passe vraiment par ces petits gestes de réduire notre empreinte carbone, ou est-ce qu'il ne faudrait pas s'en prendre d'abord aux gros poissons, d'abord les GAFA, les GAFAM? Julie Martin, qu'en pensez-vous?
Évidemment, de toute façon.
Parce qu'évidemment, on se dit, il faut tout faire. C'est la stratégie du colibri.
C'est vrai.
Mais un petit geste, parfois ça ne donne rien par rapport à un gros geste. Qu'en pensez-vous?
Je partage assez. Alors, je vais dire que je suis plus...
Alors moi, je suis mesuré parce que moi, je n'ai pas d'avis, je n'en sais rien, j'attendais votre réponse.
Alors,
je n'ai pas d'avis, je me demande. C'est la question que je me pose tout le temps.
Je pense que c'est un double travail, en fait. Évidemment, on ne peut pas faire reposer tout le poids de toute la transformation sur les citoyens, petit choix par petit choix. Néanmoins, en fait, il faut quand même se dire que si tout le monde agit, encore une fois, vu surtout sur le numérique, vu nos usages et vu le fait qu'on n'a jamais vraiment cherché à les raisonner, ça aura de toute façon de l'impact. L'un des conseils qu'on donne dans le livre, c'est aussi d'aller regarder finalement comment sont alimentés les différents réseaux sociaux qu'on utilise, par exemple, parce qu'il faut savoir que les mix énergétiques qui sont consommés par les data centers d'Instagram, ils sont un peu plus propres que ceux qui sont consommés par d'autres réseaux sociaux.
Ah bon, lesquels sont moins propres?
Le moins propre, il me semble que c'est TikTok. En Chine, il y a encore 80% de l'électricité qui est produite
par du charbon,
du pétrole. Donc du coup, forcément, ça a plus d'émissions carbone. En fait, le fait finalement de faire en sorte que les gens prennent conscience de ces problèmes, raisonnent leurs propres usages, mais aussi interrogent leur consommation et interrogent ce qui se passe au-dessus, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je travaille dans une agence de communication digitale, donc on produit des contenus, des sites sur Internet. Et effectivement, ce qu'on s'est dit, nous, c'est qu'en étant acteur de ces métiers-là et en étant producteur de ces contenus-là, c'était important aussi de réfléchir à la manière de les raisonner. Donc il y a vraiment une double réponse à avoir, qui est d'une part, qu'est-ce qu'on peut faire chacun à notre niveau individuel. D'autre part, que peuvent faire les grands acteurs comme les agences de production de contenu, comme les GAFAM, et que peuvent faire les États aussi, qui sont beaucoup en train de légiférer.
C'est un total changement de paradigme, parce que je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, quand on a arrêté ou presque la presse écrite pour avoir les journaux sur les tablettes, et quand on a arrêté d'envoyer du courrier pour s'envoyer des mails, on a dit, tu vois, comme ça, il n'y a plus aucune pollution. La preuve que non, et que les choses sont toujours plus compliqué que ce qu'on imagine. On est avec Julie Martin, on parle de ce livre, Cliquer, c'est polluer. Vous parlez dans le livre de la continuité d'Internet. Qu'est-ce que c'est? Vous allez nous le dire. On marque une courte pause, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Cliquer, c'est polluer, c'est le titre de ce livre publié aux éditions 404. Le sous-titre, Comment Internet réchauffe la planète, comprendre pour agir. Son auteur, son autrice est avec nous, c'est Julie Martin. Vous parlez dans ce livre, Julie Martin, de la continuité d'Internet. Qu'est-ce que c'est la continuité d'Internet?
En fait, la continuité d'Internet, ça consiste à faire en sorte que n'importe quel utilisateur puisse accéder à tout moment, quoi qu'il se passe dans le monde, à ses données. Et donc, ça veut dire qu'on puisse finalement toujours aller sur nos réseaux sociaux, retrouver notre compte, pouvoir toujours actualiser nos fils d'information, etc.
Quel rapport avec la pollution?
Eh bien, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça a un énorme impact sur les structures, la structure d'Internet et la manière finalement dont il devient prépondérant de pouvoir sauvegarder nos données et de les sauvegarder jusqu'à plusieurs fois. En fait, ça veut dire que chaque data center doit pouvoir stocker nos données et ne pas finalement tomber en panne. Donc, étant donné que c'est des piles d'ordinateurs qui tournent non-stop, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient énormément refroidis pour pas qu'il y ait de surchauffe. Ça veut dire que chaque circuit électronique, un peu comme dans les avions, est au moins doublé pour qu'il y en ait un qui, s'il y a une panne, et l'autre puisse prendre le relais. Ça veut dire aussi que chez les plus gros fournisseurs de, 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 de services Internet, les data centers sont même dupliqués, voire plus dupliqués, voire
on
deux,
l'a vu,
trois
je me souviens de ce data center qui avait brûlé du côté de Strasbourg et ça avait mis certaines entreprises françaises en difficulté. Mm. Ils disaient, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de site miroir, que
c'est
ce soit pas dupliqué?
Et en fait, il y en a qui sont dupliqués. Et je crois qu'en 2010, Google, la Gmail s'était dupliqué jusqu'à 6 fois. Et c'est même ces data centers donc miroirs, ils sont édifiés sur d'autres plaques tectoniques de manière à ce que même en cas de séisme, on puisse toujours accéder à nos données. Et les data centers, ils sont responsables de 20% de la consommation électrique du numérique. Donc en ça, évidemment, plus il y a data centers, plus le numérique consomme et plus il émet du CO2.
Voilà. Et si on en met moins, les gens râlent en disant oh là là, ça plante, ça bug, ça rame.
Exactement.
Donc c'est sans fin. Il faut choisir entre la peste et le choléra. Une partie de votre livre est consacrée au streaming. Que se passe-t-il pour l'environnement quand on binge-watch des séries sur Netflix ou ailleurs ou sur d'autres plateformes?
En fait, il faut savoir que parmi tous les usages qu'on a du numérique, le streaming vidéo, c'est celui qui est le plus coûteux. C'est celui qui consomme le plus d'électricité.
Il faut le dire, c'est une immense définition. C'est une image et on passe 25 images par seconde.
Voilà.
Il y a des taux de compression, je ne vais pas raconter ça ici, mais en gros, c'est ça. C'est une photo, 25 photos toutes les secondes.
Plus le fichier son qui va avec, les fichiers sous-titres. Enfin, bref, on peut vraiment aller loin. Donc effectivement, c'est les fichiers les plus lourds. Donc c'est 80%, je crois, des données qui circulent sur Internet, c'est des données vidéo. Donc forcément... étant donné que n'importe quelle donnée qui circule sur Internet émet du CO2, le streaming, c'est ce qui émet le plus de CO2.
Vous écrivez cette phrase très drôle et terrifiante. Il vaut mieux regarder un frigo pendant 11 heures qu'une vidéo en streaming pendant une heure, en tout cas sur le plan énergétique. Ou alors vous dites, en 2018, oui, le streaming vidéo a émis 300 millions de tonnes de CO2 dans le monde. On n'était même pas confinés. Les chiffres viennent d'où?
Les chiffres, alors, il y a énormément de sources à la fin. Il y a beaucoup de choses qui viennent du fameux rapport du Shift Project notamment, qui a estimé énormément le bilan carbone des vidéos.
300 millions de tonnes de CO2, c'est abstrait. Pour nous, ça représente quoi?
C'est à peu près les émissions carbone d'un pays comme l'Espagne pendant un an. C'est énorme.
Vous m'avez laissé sans voix.
Je sais. Hein? Je sais.
Je le répète, le streaming vidéo en année 2018, parce qu'on en consomme encore plus,
bien sûr,
c'est les émissions carbone d'un pays comme l'Espagne. Vous disséquez dans ce livre toutes nos pratiques numériques, on ne va pas les détailler, et les réseaux sociaux sur l'environnement, c'est moins?
Non, déjà, il y a quand même une grosse partie du streaming vidéo, je crois qu'il y a 18% du streaming vidéo qui a lieu sur les réseaux sociaux. Donc, de facto, ils consomment aussi. Après, les autres interactions qu'on a dessus, on va dire, quand on clique, qu'on like, qu'on scrolle, etc., ça a quand même un poids aussi. Ça a un poids parce que forcément, encore une fois, c'est des données qui sont hébergées dans des data centers. Après, il faut regarder effectivement... comment sont alimentés ces fameux data centers? Parce que d'un réseau social à l'autre, il y a des réseaux qui sont plus propres que d'autres en énergie.
Et les jeux vidéo? Parce que ça va dans les deux sens.
Bien sûr.
Joueur, ça va de l'ordi au joueur et du joueur à l'ordi.
En fait, le jeu vidéo, c'est un peu pareil. Alors, soit on peut... il y a toujours cette contre-intuition-là où à un moment on s'est dit « cool, on peut télécharger un jeu en ligne, c'est moins coûteux que pour l'environnement que d'acheter une boîte plastique ». En fait, ça va dépendre du poids du jeu vidéo. À partir d'un certain poids, qui n'est pas très énorme d'ailleurs, il vaut mieux acheter en dur que de télécharger. Et le jeu vidéo aujourd'hui se pratique aussi en streaming, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui tourne sur nos ordis personnels, mais que tout est en train de tourner dans les data centers. Et ça a le même impact que le streaming vidéo.
Alors, il y a les pratiques, il y a le hardware et le software. Pour une fois que je connais deux mots d'anglais, je vais les placer. Il y a nos pratiques et nos équipements. Il y a un chiffre que vous partagez dans le livre. 70% de l'empreinte carbone du numérique en France est due à la fabrication et à la distribution de nos appareils. Empreinte accentuée par une surconsommation de produits électroniques. Exemple avec l'iPhone, dont une nouvelle version sort en gros tous les ans. Dernière en date, c'est l'iPhone 13. Et on a retrouvé la vidéo, c'était en septembre dernier, d'un YouTuber. Il s'appelle Jojol, spécialisé dans l'actualité de la tech. Sa vidéo s'appelle « J'ai acheté 9 iPhone 13 et 13 Pro ».
4 couleurs pour la version Pro et Pro Max. 5 couleurs pour la version 13, 13 mini. Nous avons donc 9 iPhones à présenter dans cette vidéo. Chaque année, vous êtes tout le temps nombreux à vouloir ce type de vidéo parce que finalement, ça vous aide à choisir les couleurs que vous souhaitez avoir sur votre futur iPhone si vous n'avez pas eu la possibilité de l'acheter ces premiers jours. Bon, on va déballer quoi en premier? Pro, pas pro? Allez, pas pro. Donc il y a 5 couleurs, du rouge, du bleu, du blanc, du noir et du rose.
Alors lui, il cumule parce qu'il fait du streaming, mais il a aussi acheté 9 iPhones. Vous écrivez, Julie Martin, qu'un gramme de smartphone pèse plus lourd qu'un gramme de voiture. On voit bien l'analogie avec le kilo de plume et le kilo de plomb.
C'est
Qu'est-ce
ça.
Que vous voulez dire par là?
En fait, il faut savoir que ça vient d'une notion qu'on appelle le sac à dos écologique. C'est une mesure qui permet de quantifier le poids des ressources naturelles qui ont été nécessaires pour la fabrication d'un objet. Et pour le téléphone, pour un smartphone, c'est à peu près 500 fois son poids. Ça veut dire qu'on va extraire 500 fois le poids d'un smartphone pour arriver à le construire. Et ça, c'est dû en grande partie à ces composants qui sont des semi-conducteurs. Donc, en gros, c'est toutes les fameuses terres rares. Donc, on commence à entendre pas mal parler, étant donné qu'elles sont un peu en pénurie aujourd'hui. Et donc, en fait, il faut extraire, pour extraire quelques grammes de terres rares, il faut creuser d'énormes tonnes de roches. Sûr. En plus, il faut les rincer avec des produits qui ne sont pas super pour l'environnement.
Voilà. Et parfois, ça se retrouve dans les rivières et dans les fleuves et dans la mer.
Exactement. Et par rapport, par exemple, à d'autres matériaux qui sont nécessaires pour construire nos voitures, mais qui finalement nécessitent moins d'extraction de roches à la base, forcément, nos smartphones, entre autres, nos ordinateurs et tout ce qui contient une puce électronique, en gros, pèse beaucoup plus lourd pour le climat que des voitures, par exemple.
La preuve, on voit, puisque la fabrication des voitures est en ce moment bloquée par manque de composants et non pas par manque d'acier pour faire le châssis ou d'aluminium. Beaucoup de chiffres dans votre livre, d'alerte. Juste toute petite dernière question positive. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au quotidien, pour diminuer notre pollution numérique ?
Comme vous venez de dire que la plus grosse partie de l'impact carbone du numérique, c'est les appareils électroniques, du moins. Il faut vraiment, vraiment, vraiment les protéger. Il faut prolonger leur durée de vie. Un téléphone, en France, c'est à peu près 23 mois de durée de vie avant d'être, recyclé, avant d'être fourgué dans le fond d'un tiroir.
C'est un progrès, je me rappelle, quand ça durait 11 mois, qui tombait en panne un mois avant la fin de la garantie.
Exactement.
Déjà, 23 mois, c'est une bonne nouvelle.
23 mois, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que le premier truc, c'est de faire en sorte qu'il dure plus longtemps. Il y a beaucoup de lois qui sont en train d'être passé dans pas mal de pays, et notamment au niveau de l'Union européenne et en France, pour lutter contre l'obsolescence programmée dont vous parlez, c'est-à-dire d'arrêter de faire en sorte que les mises à jour fassent ramer nos téléphones et nos ordi, et que du coup on soit obligé de se rééquiper. Le cœur de la guerre, il est un peu là, parce qu'il faut aussi se dire que de toute façon, avec cette fameuse pénurie des semi-conducteurs, à un moment, on va plus pouvoir renouveler sans arrêt comme ça nos matériels électroniques.
Et arrêter d'envoyer des pièces jointes avec des photos, pas drôle.
Ça, c'est vrai. Merci maman.
Merci Julie Martin. Ce livre, Cliquer, c'est polluer, disponible aux éditions 404.
Oui, en co-auteur, il y a Valentin Pujadas qui est Dirty Pot, donc du coup qui travaille chez BETC Vulsix avec moi. C'est lui qui est le responsable de toutes les illustrations. C'est un livre largement illustré.
C'est vrai, très 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 illustré. C'est pour les petits, les grands et les ados. C'est pour tout le monde. Dans un instant, tout à fait autre chose, nous serons avec la chef étoilée Kelly Rangama, alias Chef Kelly. On l'avait découvert dans Top Chef. Maintenant, elle a son émission à elle sur France 3. Ça s'appelle Voyage et délices. Elle nous fait voyager. Elle revisite les plats traditionnelle d'outre-mer, mais elle reste à Paris. Donc très bon bilan carbone. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Kelly Rangama.
Bonjour.
Vous êtes en train de vous regarder sur votre portable. Vous êtes cuisinière. On vous appelle aussi Chef Kelly. C'est d'ailleurs ce qui est brodé sur votre tablier. Le grand public vous a découvert dans l'émission Top Chef en 2017. Vous étiez dans la brigade d'Hélène Darroze. Depuis, vous avez fait un sacré chemin. Vous avez ouvert votre restaurant, Le Femme, en 2019. Et vous avez obtenu une étoile au Guide Michelin après seulement 7 mois d'ouverture, ce qui est très rapide et très rare. Depuis 2017, présentez l'émission Voyages et délices, et tous les samedis matins sur France 3. Le principe de l'émission ?
Inviter les gens au voyage gastronomique dans les Outre-mer, tout simplement.
Et alors le principe, comment dire, la mécanique de l'émission ?
On part à la découverte d'une recette traditionnelle qu'on retrouve dans nos départements et territoires d'outre-mer. On revisite cette recette, accompagnée d'un invité, d'un jeune, d'un chef, d'un producteur, un élément qui a un rapport avec la recette. Derrière, je la revisite à ma façon. Quand je dis à ma façon, c'est qu'on garde les bases de cette recette en venant la pimser, la pepser avec une épice, un croustillant, quelque chose qui va rendre la recette encore meilleure.
Ouais.
Et à la fin, la dégustation, bien évidemment.
Alors, chaque épisode nous fait voyager sur un territoire d'outre-mer différent. L'épisode de demain va nous transporter en Polynésie française à la découverte du mahi mahi à la vanille, plat typique de la gastronomie polynésienne. Et vous l'avez dit, il y a des invités. Là, c'est le chef Momo qui nous explique une partie de la recette.
Donc aujourd'hui, on fait le plein de légumes, bon pour la santé. Et notre ingrédient principal, du memhei, que j'ai eu au marché. Alors le memhei, c'est de la dorade coryphène. On va mettre des 5B. Donc n'oublions pas que c'est une sauce à la vanille. On ne veut pas que le poivre prenne le dessus. Les 5B sont moins forts que le poivre. Donc là, j'ai pris de l'huile de pépins de raisin, une huile neutre. On va cuire notre mahi-mahi 3 minutes de chaque côté. On a une belle gousse de vanille, l'or noir de Polynésie. Et récupérer les grains qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est ce qui donne tout cet arôme à la vanille.
Avec ce délicieux accent chantant, c'est pour ça qu'on a choisi cet extrait, parce que c'est trop beau. Il faut juste dire un mot sur la dorade, elle ressemble en rien à notre dorade.
Non, pas du tout.
Elle a de dorade que le nom. C'est un poisson énorme qui est genre, il a l'air d'être jaune et bleu.
C'est ça, exactement.
Et il peut faire 40 kilos, ai-je lu.
Alors moi, je n'ai pas eu l'occasion d'en pêcher d'aussi gros, mais effectivement.
C'est dans le texte. Est-ce que c'est délicat de s'attaquer à des plats emblématiques d'une région sans se faire attaquer par les locaux? Chaque fois qu'on donne ici une recette, par exemple de pambagna, vous avez les Niçois qui vous expliquent que ce n'est pas la bonne recette. L'ami Laurent Mariotte, il a toujours ce problème, par exemple sur TF1, avec les petits plats en équilibre. Il y a tout le temps les gardiens du dogme. Comment vous faites?
Oui, c'est vrai. Il faut savoir qu'on est tous chauvins de nos régions, ouais. De nos départements. Et c'est vrai que dans nos dom-toms, on est accro de notre patrimoine culinaire. Alors, il faut faire attention à quoi on s'attaque, comment on s'y attaque. Donc, c'est pour ça que moi, je fais très attention, je le dis. On revisite des recettes traditionnelles, mais on garde vraiment les bases. Donc, le but étant de ne pas les dénigrer, et de rester vraiment dans le cœur de la recette.
Voilà, vous ne faites pas le pot-au-feu sans bœuf, ni carottes, ni pommes de terre.
Non, c'est pas le but. C'est pas le but. Si ces recettes sont là depuis des années, c'est qu'il y a des raisons et elles sont bonnes comme ça, donc pourquoi les changer?
Vous avez un plat préféré?
Ah, j'en ai plein.
Vous avez un plat, est-ce qu'il y a un des plats plus difficiles que d'autres à réussir à réaliser?
Oui, parce que on le dit, on vise une cuisine ultramarine avec des produits qui sont lointains et qui sont des fois difficiles à s'approvisionner. Donc oui, des fois.
Là, en l'occurrence, donc la dorade de là-bas, vous l'avez pas ici.
On est obligé
de. Vous avez fait qu'une dorade.
Bien sûr.
Européenne.
Il faut s'adapter. Mmh. Il faut s'adapter. Il faut proposer aussi à nos téléspectateurs qui regardent cette émission des solutions et des plans B lorsqu'on n'arrive pas à trouver le produit pour pouvoir refaire la recette.
Comment vous choisissez le commis, le ou la chef qui est avec vous?
Alors, il y a toute une sélection qui est faite en amont par l'équipe, par l'équipe qui m'accompagne sur cette émission. Généralement, on prend une personne qui a une connexion avec les territoires ultramarins, et puis ça nous donne tous les invités qu'on reçoit sur le plateau.
C'est déjà la saison 6.
Tout à fait.
Donc ça prouve que ça marche. 30 numéros par saison. Comment vous faites pour trouver de nouvelles idées? C'est vous, il y a une équipe, parce que là, 6 x 30, 180. Vous allez me dire, il y a des émissions de cuisine quotidienne. Mais comment on fait pour se renouveler? Parce que si on reste sur cette niche qu'est la cuisine d'outre-mer, ça vous interdit aussi beaucoup de choses.
Ça nous interdit beaucoup de choses, oui et non, parce qu'il y a des recettes très connues. On va rester sur des recettes emblématiques comme le roguet et saucisse, le boucané, le colombo de poulet pour les Antilles, le maï-maï à Tahiti. Mmh. Ça, c'est des recettes vraiment traditionnelles qu'on a déjà vues une fois, revues deux fois. Comment faire pour se renouveler et trouver de l'inspiration? Vous me posez la question, moi-même, je ne sais pas. Je puise au fond de moi et je pense que lorsqu'on est passionné...
Ouais.
Ce qui est le cas aujourd'hui, parce que j'en ai fait mon métier, on trouve toujours de l'inspiration. Il suffit juste d'aller puiser au fond de soi et je pense que les idées viennent toutes seules. Mais c'est vrai, quand on me pose la question, j'ai pas de réponse. Ça, c'est au fond de moi, ça vient comme ça.
Vous restez avec nous, on marque une courte pause. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir demander à Chef Kelly ?
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Kelly Rangama, alias Chef Kelly, elle présente une émission Voyage et délices tous les samedis matins sur France 3, une émission... Vous êtes à Paris et puis il y a des reportages qu'on voit dans des parties du monde, dans les Outre-mer, comme on dit. Sur votre beau tablier blanc, il y a écrit Chef Kelly. Pourquoi vous avez écrit Chef Kelly et pas Kelly Rangama?
Alors, c'est une bonne question.
Merci.
Philippe m'interpelle beaucoup aujourd'hui.
Parce que, attendez, après j'en ai une deuxième qui suit.
Très bien.
Alors, pourquoi Chef Kelly?
Parce que je trouve qu'on n'est pas nombreuses en tant que femmes dans le monde de la haute gastronomie. Et pour moi, c'est un honneur, c'est une fierté d'être chef aujourd'hui. Donc voilà, des fois, on se fait des petits plaisirs en se donnant ces petites dénominations sur nos vestes de cuisine.
Je vous approuve tout à fait. Pourquoi chef avec un F à la fin et pas chef E? Deux FE féminins.
Je fais aucune différence entre les deux dénominations. Ça peut être avec un F, deux FE, j'ai pas de problème avec ça.
Il y a peu de femmes en cuisine, justement. Est-ce que votre émission, une émission comme la vôtre, peut faire bouger les choses?
J'espère. J'espère que plein de femmes regardent cette émission aujourd'hui et se disent, ah bah tiens, c'est possible de cumuler un restaurant et de cumuler une émission culinaire à côté.
D'où le chef Kelly. Je dois dire qu'il y a quelque chose d'assez savoureux, parce que moi je me souviens des émissions de cuisine quand j'étais jeune. Il y avait le chef, et puis il y avait une fille avec lui, une petite commise, qui préparait les oignons. Mais là c'est inversé. C'est les gars qui coupent les oignons pour vous. Ça vous fait sourire, je vois que vous percevez exactement ce que je veux dire.
Oui, 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 comme quoi les temps changent et j'espère que demain, on aura plus de demoiselles à nos côtés pour justement faire ce rôle de commis.
Dans la présentation de France 3, il est écrit au sujet de votre première étoile, parce que je dois dire, vous avez un restaurant étoilé à Paris 17e. À 35 ans, Kelly Rangama est devenue la première femme originaire des Outre-mer à décrocher cette distinction. Est-ce que c'est important pour vous, être une femme, vous l'avez dit, et être originaire d'Outre-mer ?
Oui, complètement, parce que j'estime qu'aujourd'hui, la gastronomie française est la plus belle gastronomie au monde. On parle de nous sur la terre entière. Quand on parle de la France, la métropole, l'Hexagone, c'est également tous nos territoires ultramarins. Et c'est important aujourd'hui de faire rayonner, de faire briller nos produits ultramarins à travers la gastronomie française. La France, c'est également ses territoires et départements outre-mer.
Question média, justement, qui rejoint ce qu'on est en train de dire. L'émission Voyage et délices était d'abord diffusé sur France O, sur les chaînes La Première. Comment sont-ils venus vous chercher après Top Chef ? Ça a démarré comme ça et ensuite c'est passé sur La 3, hein. C'est bien ça,
tout
l'historique.
Tout à fait. Il y a eu Top Chef, je pense que j'ai été repérée à travers cette émission. Et puis a été mis en place une émission culinaire autour des dom-toms. Et on est venu me chercher, c'est avec grand plaisir que j'ai bien voulu devenir ambassadrice de Voyage et délices by Chef Kelly. Elle a démarré sur France O et a été répercutée sur France 3.
Vous dites le titre en anglais, by Chef Kelly, vous avez fait une prestigieuse école de cuisine, peut-être la meilleure, l'école Ferrandi. Mais auparavant, j'ai appris en préparant cet entretien que vous avez fait des études BTS de communication. En quoi ça vous a aidé, justement, pour travailler la télévision, qui est un métier de communication ?
Oui, tout à fait. Alors, BTS communication, j'y suis arrivée purement par hasard. Hein. Ouais. C'était pas du tout ma voie. C'était pas mon univers. En quoi ça m'aide ? C'est vrai que télé et communication, il y a un étroit lien. Peut-être la façon de m'exprimer. Je pense que ça a dû m'aider.
Vous avez participé, vous l'aviez, à Top Chef, c'était en 2017, c'était la saison 8 sur M6. Vous gardez quel souvenir de l'expérience ?
Une très belle expérience, bon souvenir.
Oui, parce que... Je vous interromps, parce que j'ai trouvé ça sur le site France Info d'avril 2021. Une expérience enrichissante dont elle a regretté l'issue. Elle n'a toujours pas compris les raisons de son élimination. Oui. Elle n'a pas gardé de contact avec sa coach Hélène Darroze. Que s'est-il passé ?
Alors, ne pas croire tout ce qui est écrit dans les médias. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, j'en garde un très bon souvenir. Pourquoi ? Je vais tout vous expliquer. J'étais arrivée à un moment de ma carrière où j'étais restée très longtemps dans un restaurant étoilé où j'étais sous-chef. Mmh. Et au bout d'un moment, on se repose sur ses lauriers.
Le Saint-James à Bouillac.
On s'endort. Non, l'Arôme dans le 8e.
Pardon, c'était celui d'avant, le
Saint-James. Tout à fait. Et au bout d'un moment, on a tout vu, on a fait un petit peu le tour et j'avais besoin, tout simplement, vulgairement parlant, de mettre un coup de pied au cul. Donc, je me suis dit, tiens, je vais tenter Top Chef. On est venu me chercher, donc j'y suis allée. Et effectivement, j'ai été confrontée à d'autres candidats avec un sacré level et effectivement, ça m'a réveillée. Ça m'a vraiment réveillée. Je suis arrivée à un moment de la compétition où il y a eu cette fameuse épreuve autour du cru. Et effectivement, encore aujourd'hui, on peut en parler, je ne comprends pas cette élimination. Je ne comprends pas pourquoi je suis sortie. Alors, peut-être que j'avais certes pas le niveau. Mais voilà, les raisons qui ont été évoquées de mon éjection ce jour-là, je ne la comprendrai jamais. Mais c'est comme ça, mystère et boule de gomme.
Que vos plats étaient moins bons que ceux des autres.
Je sais pas, faudrait faire venir les chefs qui étaient présents lors de la dégustation.
Non, mais si vous émettez un doute, c'est qu'il y a un doute. Vous diriez pas ça en direct à la radio si vous ne le pensiez pas.
Je le pense, mais des fois il y a des choses qui s'expliquent pas et on n'est pas dans la tête des chefs, mais encore aujourd'hui je me pose la question de pourquoi j'ai été éjectée ce jour-là.
Communication, télévision, on vous a vu également dans l'émission Chef, avec un S à la fin, sur TMC l'été dernier, j'explique ce que c'est, c'était une série documentaire inédite qui montrait la vie des cuisiniers, des pâtissiers de l'intérieur. Il y avait des grands noms de la gastronomie, il y avait vous, Mauro Colagreco, Glenn Vielle, Mathias Marc. Pourquoi vous avez accepté de participer à cette émission ?
Cette émission, ça a été une révélation dans ma vie. C'est la première fois où j'ai parlé publiquement de ma maladie qui me touche depuis quelques années et qui a basculé nos vies, à Jérôme, mon mari et à moi, dans le sens où lorsqu'on s'est lancé dans cette émission, j'étais enceinte. Et je le dis toujours, on avait deux projets, deux rêves dans notre vie avec Jérôme. C'était d'avoir une étoile au guide Michelin, d'avoir un enfant. L'étoile est arrivée avant et le bébé a suivi derrière.
La maladie, on va la dire, c'est l'endométriose qu'on appelait autrefois, on disait les règles douloureuses. Vous avez dit, on peut être chef de cuisine, faire des horaires de dingue, être atteinte d'endométriose et tomber enceinte. Comment ça se passe au quotidien ?
C'est sportif. C'est sportif, c'est une course de haut niveau tous les jours. C'est une organisation à prendre, mais c'est tellement de bonheur en face. Donc,
Pour qui voudrait-vous voir ? On peut aller dans votre restaurant qui est dans le 17e. Je ne vais pas donner l'adresse parce qu'il y a le CSA qui nous écoute, pardon, l'ARCOM. En revanche, on pourra vous retrouver, ça je peux le dire, le 11 et 12 juin prochain au Big Fest. C'est un festival qui fait honneur à la street food. C'est à Paris, vous allez y faire quoi ?
On va faire toute une déclinaison, une entrée, un plat, un dessert sur une connexion de La Réunion. Donc en entrée, des sarsibes qui est une échine marinée, un petit snacking qu'on mange énormément à La Réunion d'influence asiatique. En plat, le fameux rogueil saucisse revisité à ma façon. Et en dessert, un clin d'œil à ma maman avec le gâteau patate douce.
Merci beaucoup Kelly Rangama alias Chef Kelly, l'émission Voyage et délices. Tous les samedis à 10h40 sur France 3, donc demain sur France 3. Merci d'avoir été avec nous.
Merci
en direct. Culture Média continue après les infos de 10h. Les télescopages de Bruno Denet. Il a été très intéressé par une enquête du journal Libération qui explique comment un ancien militaire a réussi à raconter n'importe quoi à quatre grands médias au sujet de la guerre en Ukraine. Et puis notre invité, un comédien, chanteur, metteur en scène, il dit lui-même qu'il est un punk. Michel Faux, il joue dans une pièce aux côtés d'Amanda Lear, dans laquelle il incarne Bette Davis, oui, une femme. Et puis dans Les Indispensables, on va rendre un hommage à Andy Fletcher, fondateur de Depeche Mode, décédé hier. Alan White également, le même jour, le batteur historique du groupe Yes. Et puis Olivier Benkemoun va tout nous dire sur le nouveau film de David Cronenberg. C'est Gore, le film, pas Benkemoun. Marc-Antoine Lebrun en fin d'émission. Quel programme Culture Média continue.
Philippe Vandel sur Europe 1.